Radio Okapi.
La grande édition dominicale vespérale, c'est avec Pierrot et la Mégie.
Mesdames, Messieurs, voici les titres de votre journal. Eddy Kapende Sekou, accusé ayant été libéré, il est temps que toutes les voies de droit soient exploitées pour connaître enfin la vérité sur la mort de l'ancien président de la République, Laurent Désiré Kabila. Cette déclaration est de l'ONG Justicia Asbel, ce samedi à Lubumbashi. Un incendie a consumé l'avant-midi de ce dimanche plusieurs maisons et biens de ménage dans la commune d'Ibanda, dans la ville de Bukavu. Des sources sur les lieux du drame affirment qu'une femme vivant avec handicap serait morte car incapable d'échapper à temps aux flammes. Une situation similaire s'est produite aussi la nuit dernière dans la ville de Goma. Le professeur Laurent Kadeboué, directeur général de l'ISTER Tshibashi au Kasaï Central, sera avec nous avant la fin de ce journal. Il va nous parler de l'ouverture de notre site et de son institution le 14 décembre dernier dans la périphérie de la ville de Kananga. Il est notre invité. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de suivre ce journal de Radio Okapi mis en onde par Jean-Noël Mokondo. Libération, Eddy Kapende et compagnie, Justicia Asbel pense que toutes les voies des droits seront exploitées pour qu'enfin le peuple congolais connaisse toute la vérité sur la mort de l'ancien président de la République, Laurent Désiré Kabila. Déclaration faite ce samedi par le président de cette ONG de défense des droits de l'homme. Timothée Mbouya l'a dit au micro de Jean Gandou.
La libération du colonel Eddy Kapende est une bonne chose, nous l'avons salué, dans la mesure où les procès qui ont été organisés en 2003 et ont donné lieu à l'arrestation de plusieurs personnalités dites impliquées dans l'assassinat de notre héros national, M. Laurent Désiré Kabila, est un procès qui n'a pas livré tous ses secrets. Donc aujourd'hui, le désir de tout le peuple congolais, c'est de savoir effectivement tous les secrets autour de l'assassinat de l'un de nos présidents. Et donc nous estimons que toutes les voies des droits seront explorées pour que on puisse réouvrir les procès et éventuellement pour connaître qui ont fait quoi et pourquoi les gens ont purgé 20 ans en prison. Donc nous espérons que toutes les voies des droits seront exploitées et que le peuple congolais est en droit de connaître la vérité sur la mort de l'un de ses présidents.
L'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, UNADI, déplore l'incursion des miliciens de la FPIC qui a coûté la vie à 6 personnes et entraîné le déplacement de nombreux habitants à Lingabo dans la partie sud de la ville de Bounia. Son président Janvier Bin Ekwale dénonce ce qu'il qualifie d'une pire complicité de certains membres de la communauté pour n'avoir pas déniché ces hommes armés qui s'étaient dissimulés dans la population. Il fustige également la défaillance des forces de l'ordre. Il demande au gouvernement central de trouver urgemment des solutions aux problèmes sécuritaires qui endeuillent depuis peu l'Ituri. Janvier Bin Ekwale s'exprimait au micro d'Ezekiel Mouzalia.
Tout ce qui s'est passé hier, nous condamnons d'abord cet acte parce que c'est à travers les communautés qu'on commence à découvrir les ennemis de la paix, les ennemis qui troublent la province de l'Ituri. Or, nous avons toujours dit que nous, population, nous devons dénoncer, nous devons arriver au niveau où nous devons dénicher les ennemis. Les cas qui s'est passé hier, l'armée a fait son travail de vérifier si on ne peut pas trouver les ennemis. Fort malheureusement, on a trouvé les ennemis dans des parcelles, dans des maisons de la population. Le problème de la sécurité, ça concerne tout le monde. Ceux-là qui sont complices, ce sont les autorités. Parce que dans tout cela, il y a de boire et de manger. Il y a des intérêts. Les gens trouvent de l'argent dans tout ce qui se passe à Nitou. Nous demandons au gouvernement, parce que c'est lui le papa, le gouvernement central, le gouvernement provincial, de faire de tout moyen pour sécuriser la population. Parce que c'est ça l'erreur régalienne du gouvernement et de l'armée nationale congolaise.
Union sacrée de la nation initiée par le président de la République, les collectifs des organisations de la société civile du Congo, parmi lesquelles la conscience congolaise, la dynamique des jeunes du Congo et le regroupement des jeunes quinois originaires du Congo, recommandent à Félix-Antoine Tshisekedi de considérer et de revaloriser le travail abattu par le ministre du Pêche et Élevage, Jonathan Bialosuka. Dans une déclaration à la presse ce samedi 9 janvier à Kinshasa, Serge Mbala, coordonnateur adjoint de la dynamique de la jeunesse congolaise, appelle les acteurs politiques de cette partie de la RDC à jouer un rôle de premier plan dans la prochaine configuration politique du pays. Serge Mbala, dans cet extrait sélectionné par Paul Matendo.
En ce moment où le microcosme politique congolais subit de profondes mutations sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons résolu et recommandons ce qui suit. Primo, la nécessité de taire les égaux politiques et partisans et de soutenir le nouveau leadership fédérateur et communautaire au Congo. Les plateformes de la société civile du Congo demandent au chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, qui connaît très bien la force politique et sociologique qu'incarne le ministre Jonathan Bialosuka, de valoriser son poids politique derrière lequel toutes les populations du Congo vont se retrouver. Le Congo doit jouer un rôle de premier plan dans la prochaine configuration de l'État.
Au sud Kivu, précisément dans la ville de Bukavu, plusieurs maisons parties en fumée et plusieurs biens de ménage calcinés. C'est le bilan d'un incendie qui s'est produit dans l'avant-midi de ce dimanche à Irambo, au quartier Nalukemba, dans la commune d'Ibanda. Des sources sur place, dont la société civile urbaine de Bukavu, indiquent également qu'une femme à mobilité réduite serait morte car elle n'a pas pu se déplacer rapidement pour fuir les flammes. Jackson Kalimba, président de cette structure citoyenne présente sur les lieux de l'incendie, livre ses constats au micro de Cynthia Bachizi.
Nous avions échangé avec les gens, avec le chef d'avenue. On nous a dit que le feu a commencé dans une maison en blanche. Et cette maison, paraît-il qu'on a laissé le brazelo, ce que nous appelons dans notre langue le mbabula, sous le feu. Et c'est là où le feu a commencé et ça a embralé presque d'autres maisons. Le camion anti-incendie de la mairie est venu, même si c'est venu un peu avec retard, mais ça a aidé. Il y a aussi d'autres camions anti-incendie, mais aussi les jeunes du milieu se sont vraiment mis au travail pour aussi tout faire pour que les feux puissent s'éteindre. Mais jusqu'à ce, il y a des maisons qui continuent toujours à prendre des feux et on ne peut pas savoir identifier des maisons à cause de l'état de construction anarchique que nous avons au niveau de notre quartier. Et ça peut risquer d'arriver dans des centaines de maisons qui ont pris feu dans cet après-midi. Mais aussi, nous venons d'apprendre qu'il y a une vieille maman qui ne marche pas et on comprend qu'il y a le feu aussi qui l'a emballé dans sa maison. Donc, elle a été consumée dans sa maison.
On parle encore incendie, cette fois dans la ville voisine de Goma, où une dizaine de mini quincailleries, des restaurants ainsi qu'une église ont été consumés dans la nuit de samedi à ce dimanche au quartier Les Volcans, à l'espace communément appelé Kibanda. Un incendie qui survient environ 2 mois seulement après un autre qui a touché ces mêmes secteurs. Les victimes demandent l'intervention du gouvernement. Récit des faits, Rosalie Zawadi.
Ce matin, sur les sites de l'incendie, les victimes essayent de rassembler quelques effets, dont des clous restés après les passages du feu. Côté restaurant, on ne voit que des restes des caisses de boissons. Ghislain Ndoussi avait une quincaillerie ici. Hier, nous avons fini le travail à 17h30 comme d'habitude et c'est vers 21h qu'on nous a appelés, nous informant que notre partie ici était en feu. Nous n'avons pas pu venir la nuit à cause du couvre-feu. Arrivé ce matin, nous n'avons plus rien. Il n'y avait pas d'électricité, nous n'avions que notre marchandise. Donc, nous n'arrivons pas à comprendre ce qui se passe ici. Ces commerçants demandent l'aide du gouvernement car ce sont des milliers de dollars qu'ils viennent ainsi de perdre dans ces 2 incendies. Encore que parmi eux, certains ont été touchés 2 fois. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Nous restons dans le Nord Kivu pour parler insécurité avec les 6 gardes de parc qui ont été tués et un autre blessé ce dimanche matin dans l'attaque de leur campement par des combattants Maïmaï, selon l'administrateur du territoire des Rutshuru. Cela s'est passé dans l'espace situé entre Nyamitutui et Nyamilima, précisément à Kabuendo, dans le secteur centre du parc national de Virunga. L'ICSN qui confirme l'information condamne cette énième attaque contre ses positions dans cette zone. Plus de détails, Rosa.
Ces gardes dont l'âge varie entre 25 et 30 ans ont été tués autour des 9h dimanche matin. Ils étaient dans la zone pour assurer la surveillance et la protection de la clôture électrique érigée pour d'une part empêcher les animaux de quitter les parcs pour détruire les cultures des paysans et d'autre part pour empêcher les paysans d'aller cultiver les parcs. Ces victimes viennent s'ajouter au nombre des 21 éco-gardes tués l'année dernière dans les parcs nationaux des Virunga, dont une dizaine dans cette zone. indique Olivier Moukissia, chargé des communications locales à l'ICCN. Pour lui, c'est un début noir de cette nouvelle année pour les gardes des parcs. L'administrateur du territoire de Rutshuru indique que ce sont deux groupes Maïmaï, l'un basé à Binza et l'autre venu des Tchanika, qui ont attaqué les gardes des parcs. Justin Moukanya ajoute que trois combattants Maïmaï ont été tués dans les échanges des tirs. Il précise que les opérations de ratissage se poursuivent dans la zone et sont menées conjointement par les éléments FRDC et les gardes des parcs. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Des cas d'insécurité, on en parle encore dans le grand nord de la province du Nord Kivu. Craignant pour leur sécurité, plusieurs camionneurs ont décidé de suspendre le trafic sur la route Beni Kassindi. Cette situation pourrait avoir un impact sur les prix des denrées alimentaires des premières nécessités et surtout des produits manufacturés qui entrent au pays par les postes frontaliers de Kassindi. La coordination des forces vives du Nord Kivu, qui exprime cette crainte, recommande au gouvernement de chercher des mécanismes pour sécuriser ces tronçons routiers d'importance capitale pour la population des Beni, Butembo et Lubero. Edgar Mateso Katembo, son vice-premier président, l'a dit au téléphone de Guylaine Kassassia.
C'est pratiquement depuis le début de cette année que la route Beni Kassindi n'est plus fréquentée par les camionneurs. Et c'est là à la suite de l'insécurité grandissante et surtout des incidents qu'ils ont commis sur terrain. Voilà pourquoi nous pensons que les autorités militaires et les autorités politico-administratives doivent faire tout pour rouvrir la route, pour que la route soit encore une fois fréquentée. Dans un premier temps, on peut utiliser le système de convoi des véhicules où on peut cantonner à chaque 50 mètres une position des militaires pour parer à toute éventualité et permettre à ce que les usagers de la route la fréquentent aisément.
Autre chose à présent, dans la province de la Tchopo, la coordination des étudiants de l'université de Kisangani demande aux autorités tant politiques que sanitaires du pays d'user de leurs pouvoirs respectifs pour mettre fin à la situation actuelle qui empêche la reprise des activités académiques dans les milieux universitaires du pays. Car, affirme-t-elle, les étudiants ont hâte de reprendre les chemins de l'université. Ceci est contenu dans une déclaration de cette organisation estudiantine de l'UNIKIS datant du 9 janvier courant, signée par son coordonnateur Gauthier Lemba Munga. Les explications, Jacques Mokonkole.
Dans cette déclaration, les étudiants font remarquer qu'ils souffrent dans leur propre pays puisqu'un groupe d'individus a décidé de mettre en veille son système éducatif. Ils trouvent cette mesure désavantageuse et s'en indignent. Ils se demandent en outre si les milieux universitaires constituent les seuls moyens de propagation de la COVID-19. Sinon, comment expliquer que pendant ce temps de la fermeture des établissements d'enseignement, notamment supérieurs et universitaires, les églises, les marchés et des bars fonctionnent normalement sans respect des mesures barrières? Les étudiants vont loin jusqu'à faire remarquer que les activités parlementaires réunissent au moins 500 personnes et se déroulent sans crainte d'une quelconque propagation. Afin de permettre la reprise des activités académiques, la coordination des étudiants de l'UNIKIS formule un certain nombre de recommandations. Elle demande notamment à ces derniers de ne pas négliger leurs notes des cours, de respecter et faire respecter les gestes barrières, au ministre de l'ESU d'autoriser la poursuite des activités de la seconde session afin de clôturer l'année académique 2019-2020. Enfin, au chef de l'État, elle lui demande de prendre en compte les différentes revendications des étudiants de la RDC et d'y réserver une suite favorable. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a dû se rendre ce dimanche 10 janvier à nouveau en Allemagne pour se faire soigner des complications à un pied à la suite de sa récente contamination par le Covid-19. Selon la télévision publique, le président Tebboune est parti de la base militaire de Boufarik près d'Alger où il a été salué par des hauts responsables de l'État avant de s'envoler pour Berlin, a précisé la télévision nationale. Le chef de l'État a été soigné du Covid-19 pendant 2 mois en Allemagne avant de retourner à Alger le 29 décembre. Près de la moitié des entreprises suisses du secteur de la restauration et de l'hôtellerie risquent de faire faillite d'ici fin mars sans aide de l'État pour affronter les conséquences des restrictions imposées par la lutte contre le Covid-19, a averti dimanche 10 janvier la fédération représentative du secteur, rapporte AFP.
L'invité.
L'Institut supérieur de développement rural de Tibachi, ISDER Tibachi, a ouvert un autre site à Mouimba, dans la périphérie de la ville de Kananga, au Kasaï central. Ce site a été inauguré le 14 décembre dernier. Et nous recevons le professeur Laurent Kadiboué, directeur général de cet établissement, qui va compter au cours de cette année académique un millier d'étudiants. Professeur Laurent Kadiboué, ça entretien avec André Kambala Moujanaï.
Monsieur le directeur général de l'ISDER Tibachi, décrivez-nous brièvement le site où nous nous retrouvons présentement.
Nous sommes sur notre campus de Mouimba, dans la commune de Nganza, où nous avons installé nos auditoires et d'autres activités de l'ISDER Tibachi. Nous l'avons officiellement inauguré le 14 décembre dernier, lors de la rentrée académique. Nous avons plus ou moins 30 hectares qui nous ont été cédés par la communauté locale de Mouimba. Il y a les bâtiments que vous voyez autour de nous. Dans le bas-fond, nous avons des étangs que nous devons remettre en valeur et nous avons une porcherie en chantier également et nous avons des espaces que nous voulons transformer en champs, éventuellement les cultures vivrières et aussi les cultures fruitières.
L'ISDER Tibachi organise plusieurs filières mais nous ne voyons ici qu'un seul bâtiment avec deux auditoires. Comment pensez-vous encadrer les étudiants sur ces sites?
Nous y allons progressivement. Deux promotions pourraient être ici à la rentrée comme nous avons des auditoires. Les autres restent en ville. Surtout les plus jeunes, ceux de premier graduat seront en ville. Probablement le deuxième graduat, la première licence, seront avec nous ici à Mouimba. En ville, nous avons plus de 10 auditoires, donc nous pouvons bien les occuper là-bas.
La dénomination officielle de votre institution, c'est l'ISDER Tibachi, mais maintenant, nous nous retrouvons à Mouimba. Pouvons-nous aussi parler de l'ISDER Mouimba?
Pas du tout. Nous sommes l'ISDER Tibachi, c'est le nom du départ. Mais nous avons trois campus. Nous avons un campus à Tibachi, nous avons un campus à Mouimba où nous sommes, et un campus à Kamaï où il y a essentiellement le service administratif et la plupart des auditoires.
Quelle est la population étudiantine actuelle de votre institution?
L'année passée, nous avions 869 étudiants. Nous pensons que cette année, avec toutes les réussites qu'il y a eu, nous misons un millier d'étudiants.
Sur ce site de Mouimba, quels sont les services de l'institution qui seront actifs?
Deux services académiques et administratifs. Du côté administratif, il y aura un chef de bureau qui va être ici pour administrer le site. Du côté académique, il y aura un appariteur adjoint qui pourra s'occuper des horaires de tout ce qui est académique de ce côté. Et nous, du comité de gestion, nous passerons régulièrement, au moins une fois par semaine, tenir nos réunions ici et évaluer l'évolution du site.
Nous avons trouvé ici une trentaine d'étudiants. Que font-ils déjà en attendant la reprise officielle des cours?
Dans notre vision d'une méthodologie pragmatique du développement, c'est-à-dire la prépondérance de la pratique sur la théorie, nous avons souhaité que certains étudiants viennent passer leur stage ici à Mouimba. Ils ont la possibilité d'imaginer ce qu'ils veulent faire pour humaniser, pour coloniser, comme diraient les agronomes, sinon pour transformer les milieux en un milieu plus vivable. Donc faire des allées, débroussailler, aménager le bosquet qui est dans le fond, éventuellement aménager les étangs, planter des arbres. Voilà, ils ont tout un programme pendant un mois pour rendre les milieux plus humains. Nous avons 5 membres du personnel sécurité qui sont sur place ici à Mouimba. 4 gardes de nuit, un garde de jour. Donc, ils ne sont pas seuls. Ils sont vraiment protégés par nos gardes universitaires. Et les étudiants, comme responsables, doivent eux-mêmes aussi assurer leur sécurité en prenant soin d'eux-mêmes.
Où voulez-vous en arriver vraiment avec la transformation de ces milieux?
Notre rêve, c'est de rendre ces milieux une ville universitaire. Une ville universitaire voudrait dire qu'il y a tous les services qui peuvent exister dans une ville. Il y a les services académiques, donc les auditoires, les logements des étudiants entrevoir, les logements du personnel enseignant, et également les logements du personnel administratif, technique et ouvrier. À cela, il faut ajouter tout ce qui accompagne une ville. Il faut des terrains de sport, des espaces de santé, il faut de marchés, il faut tout ce qu'on peut trouver dans une ville. C'est cela notre rêve, mais nous le ferons progressivement en privilégiant les aspects académiques d'abord.
C'est au fait un projet ambitieux. Avez-vous des moyens pour y parvenir?
Comme développeurs, nous avons adopté le principe d'autodétermination, du self-government, comme on dit en anglais. Nous comptons sur nous-mêmes, comme nous ont dit nos ancêtres, Mayema Lombaka Tomananyota. Nous aimerions commencer par nous-mêmes. Si l'État nous tend la main, nous ne refuserons pas. Si les partenaires étrangers, nous en avons au Canada, et veulent faire quelque chose avec nous, nous l'accepterons volontiers. Mais nous voulons d'abord commencer avec nos moyens et compter d'abord sur nous-mêmes.
Monsieur le DG, je vous remercie.